Tout de suite, j'ai été focalisé sur l'évangile de Jean, chapitre 6, où l'on parle que Jésus était le pain de vie et que nous sommes invités, en tant qu'église locale, à faire la fête, non pas avec du pain et du levain, mais du pain sans levain. Voilà. Et puis, à ce moment-là, je tourne les yeux vers, le parc où nous habitons et je vois la neige qui tombe. Donc, par préférence, j'ai dicté sur la neige. Et je vais vous parler de la neige et ce que la parole de Dieu en dit concernant la neige. Et je pense que c'est de saison de parler de cette neige. Il y aura donc deux facettes à notre prédication. Ce sera une facette qui va nous parler d'un chemin de sanctification, ce que la Bible nous parle concernant la neige dans ce chemin de sanctification. Et ensuite, un appel qui est rattaché aussi, un appel à venir à Jésus-Christ, rattaché aussi à ce que dit la Bible concernant la neige. Soulignons d'emblée que quand il y a trop de pluie, que quand il y a trop de neige, ce sont des dégâts, c'est la destruction. Il suffit d'ouvrir sa radio pour entendre ce matin qu'il y avait eu une épaisse couche de neige là-bas dans les Alpes et qu'il y a eu des avalanches qui ont engendré la mort. Voilà, nous n'aborderons pas ce sujet, bien que ce soit important d'être sage, comme on l'a dit, quand on s'aventure sur les pistes de montagne, de ne pas faire du hors-piste. D'être sage pour éviter les dégâts mortels que cela engendre lorsqu'il y a des avalanches. Je voudrais simplement, avec vous, souligner les aspects positifs de la neige et ce que la parole de Dieu nous en dit. Et pour cela, nous allons ouvrir la Bible dans Ésaïe 55. Ah oui, Ésaïe 55. C'est un appel qui est appelé au salut, qui est appelé à recevoir la grâce de Dieu. Et voilà ce qu'il est dit concernant cette parole de Dieu, parce qu'elle nous parle de cette parole, de recevoir gratuitement le salut qui nous est offert. Et voilà ce que le prophète Ésaïe, que l'on appelle à juste titre l'évangile de l'Ancien Testament, voilà ce qu'il est dit au verset 10. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, dit l'Éternel, et accompli mes desseins. Avons-nous remarqué dans ces deux versets que nous venons de lire que cette neige vient d'abord d'en haut? Je sais que dans les montagnes, on a des canons à neige, mais c'est une neige fabriquée, une neige qui vient d'en bas et qui prend sa source dans les eaux qui sont disposées. A-t-elle cette neige issue de ces canons, a-t-elle les mêmes propriétés que la neige qui vient d'en haut? Et puisque la neige, dans le texte que nous venons de lire, est en comparaison, en métaphore avec la parole de Dieu, rappelons-nous que comme la neige descend d'en haut, il faut aussi que la parole vienne d'en haut et non pas vienne d'en bas comme celle des hommes. C'est donc vers cette parole qui vient d'en haut, dont nous avons les écrits devant nous, qui est une parole qui était divinement inspirée de Dieu, sur lesquels nous allons nous pencher. Et cette parole, elle vient d'en haut, c'est-à-dire du Père des Lumières, de qui descend toute grâce excellente et tout don parfait. Première constatation de ces deux versets. Une neige comme la parole qui vient d'en haut. Avez-vous aussi, deuxième point, remarqué les effets de cette neige? Il y a un véritable processus de vie qui est mentionné sous l'influence de cette neige. Il est question d'arroser, et nous savons que la neige, lorsqu'elle fond délicatement, pénètre profondément dans la terre et vient ainsi arroser avec joie cette terre parfois desséchée par le gel. Il est question aussi d'un processus de vie. La semence germe, et je me rappelle que mon grand-père me faisait semer en pleine neige certaines graines, et si j'ai bon souvenir, de la mâche, ou mâche, c'est ça qu'on dit, salade de blé, voilà. Il faisait semer ça sur la neige, et puis quand la neige fondait, on était admiratif face à cette germination. Il y a donc ce processus de vie, germination, la croissance, la fécondité qui est mentionnée, parce que cette plante, quand elle arrive à maturité, voilà qu'elle fournit du grain, du blé, en suffisance, d'une part, pour que cette semence soit à nouveau semée l'année suivante, mais aussi de la semence pour nourrir. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. La neige, quand on y réfléchit, est signe de grand froid, de glissade pour certains, de balade en raquette pour moi, plus à ski. Les paysages sont très beaux, sont des cartes postales qu'on aura envie de filmer et d'envoyer à tous azimuts. Mais, arrivé à un certain âge, arrivé à un certain âge, la neige a de quoi inquiéter. On a peur de se casser la patte. Et pourtant, voilà que cette neige m'amène, moi, à mon âge, à me plier dans mon fauteuil bien au chaud et à commencer à rêvasser. Ah, quand j'étais jeune, je faisais des combats de boules de neige. Ah, quand j'étais jeune, je faisais des bonhommes de neige. Eh oui, ça c'était hier. Mais restons attentifs de grâce à ce que la parole de Dieu nous dit concernant la neige. En découvrant qu'elle a cette utilité dans ce processus de vie, je considère que la neige est là au commencement de ce processus. Il faut être patient entre le moment où la neige tombe et va provoquer ses effets jusqu'au moment où le pain sera déposé sur ma table. Il faut du temps. Il y a la patience qui est exercée. Les effets, les premiers effets de la neige sont invisibles. Et pourtant efficace, puisqu'elle va générer cette fécondité et le fait de porter du fruit. Elle va générer le but pour lequel Dieu l'a donné. Ainsi en est-il de ma parole, dit Dieu. Elle est donnée pour, cette parole, elle est donnée par Dieu pour enclencher ce processus de vie spirituelle, de fécondité spirituelle dans nos cœurs, dans nos pensées, se montrant dès lors dans nos attitudes. Je vous partage quelques pensées qui sont issues de ma réflexion et aussi de l'expérience du passé. Et la liste n'est pas exhaustive. La neige, premier point, la neige étouffe le bruit. Quand nous marchons sur la route et qu'il y a la neige, on est étonné de dire « Ah, tiens, il y a une voiture qui passe à côté de moi. Je ne l'avais pas entendue. » Les gosses qui font tellement de bruit, ils paraissent silencieux. Les voisins qui sont en train de se bagarrer, tiens, on n'entend plus ce qu'ils se disent. Avec la neige, ça semble calme. Tout est amoindri. Ainsi doit-il en être de la parole de Dieu. Quand elle prend autorité dans mes pensées, elle doit nous rendre sourds quant aux bruits de la terre, de ce monde pervers et corrompu. Des pensées que le diable trop souvent injecte dans mes pensées. Ainsi, la parole de Dieu doit prendre autorité dans mon cœur, dans mes pensées, et étouffer les bruits vains de ce monde. Premier point. Deuxième point, la neige met tout le monde sur le même pied. On marche tous avec précaution. On arrive tous en retard au boulot, sauf ceux qui sont retraités, mais enfin, on arrive tous en retard au boulot. Les trains sont en retard et on est coincé dedans. Tous vivent la même galère. Ainsi en est-il de la parole de Dieu qui dit que tous les hommes sont sous la condamnation de Dieu. Ils vivent tous la galère. Voué à la mort éternelle. Ainsi en est-il de ma parole. Quand Dieu dit ce que les hommes sont à ses yeux, ils sont tous froids quant aux choses célestes. Ça ne les intéresse pas. Ils sont froids. Ou dit autrement, ils sont morts dans leur faute et dans leur péché. Et le seul moyen d'être sauvé, c'est la foi en la grâce de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole. Une neige qui met tous les hommes sur le même pied. Elle étouffe le bruit, elle met tout le monde sur le même pied. La neige éblouit. Troisième point, elle éblouit. Elle reflète la lumière. Je suis allé hier pour photocopier les invitations et quand je suis rentré à l'imprimerie, alors que le soleil était peu perceptible, il y avait à Fléron un certain brouillard, quand je suis rentré dans le magasin, à l'imprimerie, je n'y voyais plus. Mes lunettes étaient devenues noires. Elles avaient donc absorbé cette lumière que reflétait la neige. Quand je vois ceux qui reviennent des skis, ils sont tout bruns. Et ils ont, voilà, et ils ont là des auréoles autour des yeux, tout blancs. Preuve qu'ils ont été imprégnés de cette lumière que reflète la neige. Voilà. Ainsi en est-il de ma parole, dit l'Éternel. Quand Moïse est allé pour recevoir les ordonnances de l'Éternel, qu'il a passé 40 jours et 40 nuits sur le Sinaï, pour recevoir, pour être en contact avec Dieu, comment est-il descendu vers le peuple? Étincelant, éblouissant, au point qu'il devait cacher son visage. Les effets de la parole de Dieu se voient. Quand nous contemplons, selon ce que Paul dit dans Corinthiens, quand nous contemplons la face de Christ, Nous sommes transformés de gloire en gloire lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs. La lumière de Christ se reflète au travers de nous, dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos paroles. Et ça se voit. Guy, voici quelques semaines, ou la semaine passée, je ne sais plus, nous a parlé de chrétiens que l'on reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Ils étaient donc tellement imprégnés de Jésus-Christ que ça se voyait. Christ, la lumière donnée aux hommes, qui est reflétée au travers de nous, au point que Jésus dira, « Moi, je suis la lumière, et vous aussi, vous êtes la lumière. » Nous reflétons la lumière de Christ. La lumière reflète la lumière. La neige reflète la lumière. Troisième point de ma réflexion. Quatrième point. La neige, d'après ce que mon grand-père me disait, c'est un bon isolant. Lorsqu'il gèle très fort, lorsqu'il y a une couche de neige sur les plants, c'est comme si on mettait sur la plante un voile d'hivernage. Elle protège les racines du froid. Ainsi, en est-il de la parole de Dieu. Les disciples, à un moment donné, étaient dans la tristesse, dans le froid d'un événement qu'ils venaient de vivre. C'était la crucifixion du Seigneur. Et dans cette tristesse, ils ont quitté Jérusalem, ayant oublié que Jésus avait promis qu'il allait ressusciter, et ils sont là en chemin vers Emmaüs. Et un personnage qu'ils n'ont pas reconnu, alors qu'il était le Seigneur Jésus, ils sont là dans le froid de la détresse, et voilà que Jésus leur parle de cette parole divine. Et commençant par Moïse et les prophètes, Jésus parle à ses deux disciples de ce qui le concernait, de ce que cette parole parlait de lui. Et qu'est-il dit de ses disciples alors qu'ils sont dans le froid de la détresse, de la peine, de la tristesse? Les disciples disent, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque Jésus nous parlait en chemin ?» Ainsi, si nous passons par des moments de froideur, de détresse, d'épreuve, la parole de Dieu fait son effet de consolation, d'encouragement, de bienfait dans nos cœurs. Elle est un isolant bien-aimé qui nous isole de ce monde si froid et si cruel. Et puis la neige est aussi, de ma réflexion, un fertilisant inattendu. L'adage dit « bonne chute de neige, terrain bien fumé ». C'est un fait qui est constaté par les agriculteurs. Pourtant, les flocons de neige ne contiennent pas beaucoup d'azote par rapport aux engrais qu'on peut y mettre, sur notre sol, bien sûr. Mais comme le flocon de neige descend tout doucement d'en haut, par rapport à ce qui est projeté par les canons, de neige, comme descend d'en haut, ce flocon de neige sait se charger d'azote. C'est insignifiant. Et pourtant, cela a des conséquences bienheureuses sur les plantes qui poussent. Ça se voit dans les cultures. Ainsi doit-il en être de la parole de Dieu. Lorsqu'elle descend dans notre cœur, elle doit féconder ce cœur. Elle doit le rendre sage pour porter du fruit à la gloire du Seigneur. Enfant, j'allais me promener dans le verger d'une chère tante qui habitait non loin de là. Et quel délice de manger des fruits frais sans devoir les passer sous l'eau bouillante pour enlever les pulvérisateurs. Enfin, ce qui a été pulvérisé, non, rien du tout. On frottait ça avec sa main et on croquait à pleines dents. Il y avait dans ce verger un arbre qui avait connu une triste détresse. Il avait reçu, c'était un pommier, il avait reçu la foudre du ciel. Il était donc à moitié couché sur le sol. C'était un régal pour moi, parce que j'avais beaucoup d'facilité à y grimper. Voilà, il était là par terre. Et pourtant, bien aimé, il était d'une production supérieure à tous ces arbres qui étaient là, debout, flamboyants. Le fruit qu'il donnait, la pomme, était succulent. Ainsi doit-il en être de la parole de Dieu qui agit dans ma vie. Imaginons, bien-aimés, que la parole de Dieu ne produise pas ses effets de fécondité. Imaginons que la parole de Dieu ne produise pas cette fécondité et que nous vivions dans la médiocrité spirituelle. Imaginons, pensons, au cœur du Seigneur Jésus, lorsqu'il s'approche de moi, enfant de Dieu, pour prendre du fruit et se délecter du fruit que je suis invité à porter, de ne rien trouver. Ma question, que fait cette parole dans ma vie? Nous avons parlé de la neige qui étouffe le bruit. Nous avons parlé de la neige qui met tous les hommes sur un même pied. Nous avons parlé de la neige qui reflète la lumière. De la neige qui est un bon isolant. De la neige qui est un fertilisant. Ainsi doit-il en être de la parole de Dieu. Est-ce que c'est le cas dans ma vie? J'avais un chant, mais il n'est pas connu. J'ai pris en référence notre frère Ernest pour savoir s'il était connu. Il ne connaissait pas. Et pourtant, ce chant s'est imposé à mes pensées en écrivant rapidement ces quelques notes. Et je voudrais le lire, bien que peut-être qu'il s'approchait. Je voudrais le lire et peut-être que le refrain vous viendra à l'idée, sonnera juste dans vos pensées. Mais voilà, en parlant de ce que la neige peut produire, je ne sais pas si ça... Ah, voilà, bon, alors ça ne fait rien. Je vais lire la première strophe. Hein. Voilà. Voilà ce que ce chant dans les ailes de la foi, numéro 326, dit. Ô mon Sauveur, à toi seul je veux être. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Ah, voilà. Brise l'idole et de ce cœur sois maître. Rends-moi plus blanc, Seigneur, que la neige. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi, Seigneur, plus blanc que la neige. Et ce chant est un chant qui nous amène à un chemin de sanctification. En moi, Jésus, la deuxième strophe, et je m'arrêterai là. En moi, Jésus, ne laisse aucune place où le péché se glisse en interdit. Agneau de Dieu, que ton sang pur efface ce qui me vient de son pouvoir du péché, qui est maudit, oui, par ton sang, Seigneur. Lave mon péché, mon cœur. Rends-moi, Seigneur, plus blanc que la neige. Et ainsi, ce chant continue sur 5 strophes. Mais je voudrais, à côté de cela, aborder un autre volet dans le peu de temps qu'il me reste. Voilà, 5 minutes. Puisque nous avons vu ce que doit produire la neige dans les cultures, et il en est ainsi de la parole de Dieu, je voudrais lire avec vous dans le même prophète, chapitre 1er, et voir ce que Dieu dit de la neige concernant l'homme pécheur. Ésaïe, chapitre 1er, et au verset 18. Ésaïe 1, verset 18. Et on est toujours dans la neige. Venez et plaidons. Et certaines versions où le texte original ajoute ensemble, bien que ce soit dans le pluriel, j'aime bien d'ajouter cet adjectif ensemble. Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine, ou certaines versions ajoutent blancs comme la laine. On pourrait faire une différence minime entre ces différents termes de cramoisi, de pourpre, de laine. On pourrait faire toute une prédication là-dessus, mais là n'est pas mon propos. Il parle ici dans son contexte de personnes qui sont infidèles, qui sont rebelles, qui sont hypocrites, qui aiment le mal. Et dans cette scène de désolation des hommes, il y a une convocation qui est donnée par Dieu aux hommes, une invitation à venir, et à venir à la barre du tribunal, plaider. Et il y a urgence à venir plaider sa cause. L'homme est invité à se placer devant le trône de la sainteté de Dieu, et à connaître la parfaite sainteté, c'est-à-dire la parfaite justice de Dieu. On dit toujours que Dieu est amour, mais rappelons-nous que Dieu est saint. Et à cause de sa sainteté parfaite, il y a une sainte justice qui est proclamée. Et quand on analyse ce verset, on est dans deux aspects totalement opposé, qui semble inconciliable, la justice et l'amour, la condamnation et la grâce. Écoutons le plaidoyer de Dieu. Venez et plaidons. Dieu prend la parole et plaide contre l'homme, contre moi. Écoutez ce qu'il est dit au verset 15, que l'on pourrait adapter à nous-mêmes. Quand vous étendez vos mains, je vais cacher de vous mes yeux. Quand même vous multipliez les prières, je vais boucher mes oreilles, je ne vais pas les écouter. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux le mal de vos actions, cessez de faire le mal et apprenez à faire le bien, recherchez le juste jugement, rendez heureux l'opprimé, faites droit à l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Bien-aimé, quand on entend ça de la bouche de l'Éternel, on a la bouche fermée. Parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Spirituellement dans mes vies, dans ma vie, c'est vrai. Avez-vous remarqué l'étrange situation? Dieu plaide sa cause. Dieu défend sa sainteté. Dieu dit qu'il ne sait pas supporter le mal. Dieu réclame justice. Dieu plaide en faveur de l'orphelin. Dieu plaide en faveur de la miséricorde. Et pour nous aujourd'hui, Dieu plaide en faveur de son Fils bien-aimé. Il accuse les hommes d'avoir sur leurs mains le sang de l'innocent. Et l'innocent par excellence, c'est le Fils bien-aimé de Dieu qui a pris place sur cette scène. Et à cause de ce sang qui se trouve sur les mains des hommes, pour avoir crucifié, pour avoir répandu le sang de Jésus, prévu par Dieu, seul moyen de réconciliation avec lui, Dieu prononce sa sentence, et c'est pas comme dans le monde, hein. Dans le monde, quand vous avez fait la moitié de la peine, on réfléchit à vous libérer. Mais quand Dieu prononce sa sentence, elle est pour l'éternité, elle est irrévocable, elle est sans appel, coupable, condamnée pour l'éternité. Et Dieu me dit, plaide maintenant, plaide ta cause. Et quand j'entends les reproches que Dieu me fait, que dis-je pour ma défense devant Dieu? Qu'est-ce que je vais lui dire? T'as raison. T'as raison. C'est ce qu'il désire entendre. Pas d'excuses devant Dieu. Ce qu'il dit est vrai, me concernant. Et j'ai la bouche fermée. Je reste silencieux devant lui. J'entends la sentence, t'es condamné, t'es mort. Mais chose étrange, c'est que celui qui m'accuse et qui plaide en faveur de sa sainteté, qui plaide en faveur du sang de son Fils bien-aimé, est celui-là même qui me dit, si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, si tes péchés sont teintés du sang, parce que le cramoisi et la pourpre sont les symboles du crime, sont les symboles de ce sang précieux, si même tes péchés sont rouges comme le cramoisi, sont teintés de sang, Dieu me dit, si tu confesses, si tu acceptes la vérité, tes péchés sont effacés. Ils deviendront blancs comme la neige. Dieu en Jésus-Christ a décidé de payer la dette de sa justice. Où cela? Sa loi disait, tout homme qui pêche doit mourir. C'est ce que je méditais. Et Dieu dit, c'est mon Fils, celui qui est sans péché, qui n'a commis aucun péché, celui dans le cœur duquel il n'y a rien eu de mal, celui dans la bouche duquel ne s'est trouvé rien de mensonge. c'est celui-là. Que par amour pour toi, j'ai décidé qu'il paie la dette du jugement. Il invite donc, il m'invite à venir au tribunal, non pas pour me juger, ni pour me condamner, mais pour me proposer de défendre ma cause, d'effacer ma condamnation, de me faire grâce, parce qu'il a payé la justice de Dieu. Celui qui pêche doit mourir. Et c'est Jésus sans péché qui meurt à ma place. Au lieu d'entendre, si je viens avec un cœur ouvert à la vérité de Dieu, si je viens pour entendre cette condamnation, alors j'entends de la bouche de mon Dieu cette incomparable promesse. Si tes péchés sont teintés du sang de mon Fils, alors je les efface. Vous savez, aujourd'hui, sur des scènes de crime, on retrouve des traces de sang qui sont imperceptibles à l'œil. On retrouve des traces d'ADN imperceptibles à l'œil. Et on sait pister le criminel. Dieu dit, t'as beau utiliser tous les nitrates, tous les acides, tous les produits forts, mordants qu'il existe dans ce monde pour effacer la trace indélébile du sang, impossible. Et pourtant, Dieu dit, moi j'efface, j'enlève, je nettoie, je purifie. La promesse de Dieu, elle est certaine. Si moi, je plaide la vérité, si je la reconnais, dans ma conscience, je sais que je suis pécheur, alors je proclame merci parce que Jésus a payé ma dette. Et Dieu de me dire, j'efface. Fini. Plus de condamnation pour ceux qui sont attachés à Jésus-Christ. Tu es blanc comme la neige. Alors ma question, as-tu entendu cet appel à venir à Dieu? As-tu entendu et répondu à cet appel? Dieu ne refuse personne. Si tu viens à lui, c'est pour recevoir sa grâce. Que vas-tu plaider devant lui? Je te laisse le choix. Conclusion. Pour le chrétien qui désire marcher dans un chemin de sanctification pour Dieu, telle la neige que la parole de Dieu habite pleinement et richement en chacun de nous, et qu'elle produise son effet de croissance, de fécondité pour que nous portions du fruit à la gloire de son Saint-Nom, pour que nous soyons transformés à la ressemblance de Jésus. Et pour d'autres peut-être, une exhortation aussi. Si tu n'as pas encore décidé à répondre à l'appel du Seigneur, ne néglige pas l'aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour de grâce. Ne néglige pas le salut que Dieu t'offre en Jésus-Christ. Il désire entendre de ton cœur ton plaidoyer, des excuses, ou simplement dire, Dieu, tu as raison, je suis coupable. Que le Seigneur bénisse sa parole pour chacun de nos cœurs et que nos consciences soient remuées, non pas par ce que j'ai pu partager, mais parce que la parole de Dieu est